Radio Star.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, dans Un jour dans le monde, nous sommes en Afghanistan avec les troupes américaines et afghanes. C'est le premier grand format de ce jeudi. Nous allons au Canada qui commence à inscrire sur ses passeports genre neutre. L'actu en série prend des nouvelles de ceux qui ont fait l'actu internationale et totalement disparu des radars. Vous découvrirez le choix d'Olivier Poujade avec l'homme le plus détesté du Royaume-Uni. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Mais d'abord, puisque la fin de la 7e saison de Game of Thrones a encore mis la moitié de la planète en émoi, on se penche sur ce que ces séries nous enseignent sur la marche du monde.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Game of Thrones, donc, House of Cards, Homeland, Le Bureau des Légendes, Borgen, même si vous ne les avez pas vus, vous en avez forcément entendu parler, ces séries télé qui se sont emparées de ce que le cinéma a longtemps été le seul à faire. Elles nous déclinent en épisodes nos peurs, nos obsessions sécuritaires, notre démocratie rêvée. Elles campent des présidents qu'on voudrait avoir, qu'on craint d'avoir. Elles créent des mondes et des jeux de pouvoir comme autant de chaos qui sont le reflet de notre géopolitique d'aujourd'hui. Peut-être même qu'elles savent aussi transformer et modifier notre regard sur la réalité. Bonjour à vous Pierre Langlais.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des séries télé pour Télérama et bonjour François Jost.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, la télévision est votre univers et vous êtes avec nous en duplex du Mans. François Jost, je sais que votre spécialité et surtout votre tasse de thé n'est pas Game of Thrones, donc je ne vais pas vous donner cette tarte à la crème d'emblée, parce que c'est toujours un peu par là qu'on commence, c'est devenu un tel phénomène. Je vais plutôt, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet. Ce sont évidemment les Américains nos modèles favoris, mais ils ne sont pas les seuls. À quel moment situez-vous le tournant? Depuis quand la pure fiction s'est mise vraiment à toucher au réel grâce aux séries télé? Ça commence quand cette affaire?
Alors bon, c'est vrai que ça pourrait appeler une réponse extrêmement longue, parce que qu'est-ce qu'on appelle réalité? C'est une vaste question.
Vous avez du temps, mais pas trop de temps non plus.
Moi j'en ai, mais peut-être moins que vous. Non, je pense qu'il y a un premier tournant extrêmement important qui est vers 1981 avec East Street Blues, qui est une série qui raconte l'histoire d'un commissariat où tout d'un coup on parle pas seulement de profession, mais aussi de la vie privée des gens. Ça c'est une tendance forte. Alors évidemment, à partir de 2001.
De 2001,
je
oui.
Je retarde d'un siècle.
Pas pareil.
Il y a
le
aussi
vrai tournant, c'est celui-là.
Un vrai tournant du point de vue de l'engagement politique des séries. Ça a été un tournant parce que ça a justifié beaucoup de choses qui n'existaient pas avant dans les séries. Par exemple, le fait qu'un personnage était traumatisé par la guerre, donc qu'il agisse d'une façon particulièrement violente. Il y a aussi le Patriot Act qui autorise tout à coup la surveillance et justifie même parfois la torture, qui va influer beaucoup sur les séries. On peut le voir sur une série par exemple comme 24, qui est exactement dans
donc
un chevauchement.
24 heures chrono chez nous, hein.
Oui, 24 heures chrono, qui est diffusé pour la première fois en novembre 2001, donc qui n'a pas encore connaissance des événements de l'attentat de septembre 2001, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de, j'allais dire, de paranoïa des États-Unis qui serait au centre de tous les complots, qui va peupler beaucoup de séries.
Pierre Langlais, justement, à partir de 2001, est-ce que, et peut-être à l'image de ce Jack Bauer dont on parle, les héros se sont transformés pour coller à une autre réalité, à une autre politique, à une autre géopolitique dans le monde?
Alors déjà, pour compléter ce que disait François Jost, c'est vrai qu'il y a eu cet impact 2001 qui est évident, mais ça a toujours été présent en sous-texte dans les séries américaines dès les années 60. La guerre froide est présente. Les séries d'espionnage sont très tendance à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre froide. Star Trek, dès les années 60, parle de géopolitique. Alors en sous-texte, évidemment. Dans les années 80, tous les grands héros des années 80 qu'on connaît, l'agence Tourisk, MacGyver, etc., sont des anciens du Vietnam. Donc c'est pas forcément... Il y a eu des séries comme MASH, évidemment, qui étaient soi-disant sur la guerre de Corée, mais qui évidemment renvoyaient à MASH. Donc au Vietnam. Donc il y a toujours eu ça. Après, c'est vrai qu'après 2001, ce qui se passe, c'est que c'est en plus au moment où les séries américaines, puisqu'on parle de celles-là, sont impactées par l'explosion du nombre de chaînes et l'impact des séries du câble et donc des séries d'auteurs. Et donc, on va avoir des séries plus sombres, des personnages plus violents.
Est-ce qu'on perd les héros positifs ou au contraire, on a besoin de ça aussi après cette période-là et c'est en train aussi de se retrouver un petit peu aujourd'hui?
Les héros positifs, à l'époque, vont plutôt se reporter sur les grandes chaînes, grand public, là où le câble va se concentrer sur des héros plus ambigus. Parce que ce qu'on appelle un héros positif, c'est souvent un héros héros avec une seule facette et qui est beaucoup moins complexe et beaucoup moins intéressant qu'un héros qui va être ambigu, complexe, ou un anti-héros, comme on aime le dire à toutes les sauces.
Les anti-héros sont en train de revenir en ce moment. Donc justement, dans ce contexte-là, je pense à quelque chose que peut-être certains ont vu, qui s'appelle Designated Survivor, notamment. Donc c'est un type qui se retrouve tout seul président des États-Unis parce que tout a sauté autour de lui et qui est un homme normal qui doit s'en sortir et régler tous les problèmes de ce pays. Un anti-héros au départ, un type qui n'est pas fait pour ce rôle-là. Alors, et qui va devoir l'endosser. C'est très américain et très de notre période surtout.
Ouais, ce qu'on entend par anti-héros, c'est plutôt en général des méchants qui sont des gentils, pour dire la chose simplement, c'est des gentils avec beaucoup de failles. Là, dans Designated Survivor, ce personnage qui, pour l'anecdote, est joué par Kiefer Sutherland, qui était déjà dans 24 heures chrono, donc il y a un clin d'œil qui est là, est un homme politique plutôt positif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient du peuple, qui est quelqu'un de simple, de plus terre-à-terre que les autres. Enfin, on n'a pas affaire à un personnage de politicien formaté, comme la télévision aimait bien faire depuis ces dernières années, en tout cas depuis House of Cards.
Alors justement, tiens, le voilà.
The American people don't know what's best for them. I do. I know exactly what they need. They're like little children, Claire. Lucky for them, they have me. One nation, Underwood.
François Jost, ce qu'il dit là, Frank Underwood, c'est les Américains ne savent pas ce qu'ils veulent, mais moi je suis là et je suis là pour défendre et vendre la démocratie. C'est ça le message de ce personnage extrêmement cynique qui est devenu le président des États-Unis dans la période qui est la nôtre.
Oui, moi ce que je voulais rajouter à ce qui était dit tout à l'heure sur l'anti-héros, etc., ce qui a changé véritablement dans les héros d'aujourd'hui, et les racines sont effectivement dans East Street Blues, c'est que les héros sont clivés entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ce qui fait qu'ils sont plus tout à fait positifs et que, par exemple, une espionne comme Carrie dans Homeland peut être bipolaire, ce qui est quand même assez étonnant.
Et la métaphore sur l'état du monde quand on est bipolaire est quand même épatante aussi, non? Qu'est-ce que vous
en dites? C'est assez étonnant. Si on regarde par rapport au Bureau des légendes, ça donne tout à fait... C'est beaucoup moins réaliste, parce que effectivement, le héros, là, a des failles qu'un agent secret normalement ne devrait pas avoir. Mais pour répondre à votre question sur Underwood, c'est du même ordre. C'est-à-dire que Underwood a à la fois cette vie publique et par ailleurs une vie privée qui amène aussi des aventures. Alors, il y a une rupture par rapport à des séries comme La Maison Blanche, par exemple, qui montrait un fonctionnement au quotidien de la Maison Blanche. Alors que là, ce qu'on montre, c'est le côté, le dark side, c'est-à-dire non pas le fonctionnement, mais comment on accède à la Maison Blanche. Ça me rappelait cette phrase d'un politique qui disait que entre l'amitié et la réussite, il y avait une chose qui était la trahison. Et effectivement, là, tout d'un coup, au lieu d'avoir quelque chose qui nous montre un fonctionnement vertueux de la politique, on a le côté sombre du personnage qui agit sur la politique. C'est-à-dire que, en même temps, c'est une leçon sur le politique et pas sur la politique, sur la façon dont l'homme politique fonctionne.
Sur le politique, sur la politique, sur la perte de confiance dans les institutions, probablement, sur la démocratie, sur ce qu'on peut voir aujourd'hui, y compris dans la politique américaine. Pierre Langlais, François Jostan parlait de cette série qui s'appelait La Maison Blanche, West Wing en anglais. La différence de ces deux héros dit ça aussi. On a une Amérique positive qui nous montre quelqu'un qui est plus que démocrate et qui est toujours extrêmement gentil, qui est très, très très démocrate, très très à gauche. Et puis il y a l'autre aussi, mais il se passe presque 10 ans entre ces deux moments-là, plus de 10 ans même.
Oui, c'est deux dynamiques complètement opposées, sachant que, alors au-delà des différences majeures entre le président Bartlett de la Maison Blanche et le président Underwood de House of Cards, il y a cette envie qu'a The West Wing de démocratie, et une envie. Quand on regarde The West Wing, on a presque envie que ça soit demain le jour de l'élection pour aller mettre un bulletin dans l'urne, parce qu'il y a cette passion pour la chose publique, pour le décryptage du quotidien, de ce que c'est de faire la politique, là où House of Cards, avec Frank Underwood, alors il y a quand même dans House of Cards des détails sur comment fonctionne la politique, mais on ne s'intéresse pas tant à ce qu'on peut faire pour le pays qu'à ce qu'on peut faire pour gouverner le pays. Et c'est le pouvoir de la politique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a dit, voilà, Underwood, c'est du pur cynisme, c'est de la technique, c'est je veux le pouvoir. Bartlett, c'est un amoureux, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, de docte, enfin, qui est vraiment un universitaire, etc. Et donc, il y a une différence majeure entre un personnage qui, c'est vrai, est un peu le fantasme du président américain et l'autre qui serait le cauchemar du président américain.
À la Maison-Blanche a été co-scénarisé en partie par une partie de ce qu'a été une période l'équipe d'Obama. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi une manière de nous donner, à travers les séries, parce que désormais elles ont pris une place importante, une vision de la réalité telle que eux la souhaiteraient, et que finalement les messages sont beaucoup plus faciles à faire passer par l'intermédiaire d'une série comme celle-là ou une autre qu'en faisant un discours politique ou un papier dans un journal?
Alors c'est sûr que la série a cette particularité d'être inscrite dans le quotidien des téléspectateurs, contrairement à un film qui peut avoir un impact énorme mais qui va être court sur la durée, la série va revenir et donc va s'inscrire dans notre quotidien. Donc oui, si la série était un médium pour faire passer des idées et pour nous changer notre regard sur la politique, ça pourrait être en effet le cas en général. Les scénaristes, alors qu'ils peuvent être très bien des gens politisés, se défendent de vouloir en faire des outils pour ensuite aller changer les mentalités. Mmh. Et les créateurs d'House of Cards, d'ailleurs, disent à aucun moment on a voulu montrer une image négative de la politique et n'allez pas nous accuser d'avoir poussé Trump à la Maison-Blanche. C'est une histoire avant toute chose.
François Jost, est-ce que ce sont les séries qui façonnent la politique et la manière dont le monde fonctionne ou est-ce que c'est le contraire?
Je pense que les deux sont vrais. Je voudrais rajouter une chose sur effectivement la façon dont les scénaristes disent quelque chose de la politique, en prenant l'exemple de Homeland. Dans Homeland, il y a quelque chose quand même d'assez nouveau par rapport à l'opposition qu'on a eue dans beaucoup de séries entre le bien et le mal, qui était l'opposition en fait de Bush. Hein, c'est-à-dire que 24, c'est véritablement la suite de la politique de Bush. Dans une série comme Homeland, on a finalement un regard extrêmement critique sur ce qu'a fait le président des États-Unis dans ses attaques en bombardant une école et en tuant des enfants. Et
donc toutes les erreurs de l'administration américaine, elles sont pointées effectivement dans cette série. Ouais.
Voilà, cette série met en évidence, je veux dire, est très critique par rapport au régime américain. Et c'est souvent fait par des gens qui sont extrêmement critiques finalement sur la démocratie américaine et sur le rêve américain.
Pierre Langlais, est-ce qu'il y a déjà une série emblématique de l'ère Trump? Il y a celle qu'on va fabriquer, mais il y a celle dont on s'est emparé en fait aux États-Unis.
Oui, c'est The Handmaid's Tale, hein, la servante écarlate. Voilà, adapté du roman de Margaret Atwood qui date de 1985, qui a été adapté et diffusé cet été à partir du printemps aux États-Unis et qui raconte une Amérique dystopique dans un futur proche où en gros, pour dire les choses simplement, les femmes ont été tout à fait asservies et certaines d'entre elles sont des servantes écarlates, littéralement des esclaves sexuels,
des ventres,
qui sont là pour porter les bébés de la classe dominante. Et cette série a été effectivement transformée, parce qu'elle a été inventée avant l'ère Trump, a été transformée en symbole d'une Amérique machiste, d'une Amérique misogyne, où il y a ce risque. Et la série montre, en montrant dans les flashbacks dans le passé, comment on part de petits gestes du quotidien, entre guillemets anodins, d'insultes, de rejets, de différences de salaire, de tout ce qui est réel dans le monde aujourd'hui aux États-Unis, pour l'air de rien glisser vers la dictature et vers l'asservissement des femmes. Et donc, évidemment, est une dénonciation violente de la misogynie de l'Amérique d'aujourd'hui, dont Trump est un symbole avec toutes ces phrases qu'il a eues et qu'il ne cesse d'incarner aujourd'hui.
Et on trouve dans les manifestations aux États-Unis aujourd'hui des femmes qui sont d'ailleurs habillées en servante écarlate. Est-ce que Hollywood prépare des choses? Est-ce qu'on s'empare de ça, de ce monde quel qu'il est fait aujourd'hui dans les séries télé ou pas?
Alors,
est-ce que c'est maintenant tout de suite?
Alors, ça prend un peu de temps, évidemment, surtout pour les drames, mais il y a un impact qui a guetté sur la prochaine rentrée des séries américaines qui arrive. Alors, non seulement il y a beaucoup plus de séries militaires que d'habitude, et de séries qui parlent de religion. Alors, est-ce que c'est une tentative des chaînes américaines pour amadouer l'électorat de Trump? Ça sera à voir en fonction de ce qu'il y aura dans ces séries. Et puis, il y a les comédies qui, elles, ont été plus rapides et qui ont commencé déjà à réagir. Alors, nous ne parlons pas des South Park et des Simpsons et consorts qui ça fait bien longtemps qu'ils s'en prennent à Trump. Mais il y a par exemple une série qui arrive dans pas longtemps qui s'appelle The Mayor, le maire, dont le héros est un jeune rappeur noir et qui va devenir maire de sa ville pour se faire mousser finalement, pour vendre son album. Et peut-être qu'on pourra lire en sous-texte l'histoire d'un type qui est avant tout un homme de médias et qui se fait élire président pour se faire mousser, ce qui peut en fait permettre de se moquer de l'ère Trump.
Un tout petit extrait encore et une dernière question pour François Jost.
«
C'est le générique de Borgen. Et la question que je voulais vous poser, c'est une série danoise, que je voulais vous poser, oui. François Jost, c'est de savoir si justement, quand on montre une femme accéder au pouvoir, comme quand on montre un noir accéder au pouvoir, comme les séries l'ont fait avant la réalité, est-ce qu'elles sont capables d'influencer, à votre avis, le vote d'un pays, ou en tout cas, une certaine idée de la politique?
Oui, je pense. C'est vrai que dans le cas d'Obama, qui a été précédé effectivement de séries qui montraient parfois une femme noire à la tête des USA, comme Prison Break, ça habitue à l'idée. C'est-à-dire qu'on peut considérer, si vous voulez, que les séries font des sortes d'hypothèses et qu'elles vont jusqu'au bout de ces hypothèses et donc elles les rendent peu à peu vraisemblables. C'est-à-dire que le spectateur se dit, ben oui, au fond, pourquoi pas, ça peut marcher comme ça.
Et la seule chose qu'elles n'ont pas vu venir, vraisemblablement, donc c'est l'élection de Donald Trump.
Sauf les Simpsons, qu'il avait prévu 16 ans avant.
Oui, les Simpsons, oui.
Et les Simpsons sont toujours en avance sur leur temps. Nous, on est en retard sur le temps. Il est 18h31. Merci beaucoup à vous, Pierre Langlais. Merci à François Jost en direct avec nous.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite dans Un jour dans le monde. Tiens, Olivier Boujade, puisque vous êtes arrivé dans le studio, oui. Votre rendez-vous du jeudi, c'est un homme ou une femme dont on parle tellement plus dans l'actualité du monde qu'on se demande ce qu'il devient, et aujourd'hui...
L'homme qui ne voulait pas du Brexit, mais qui l'a provoqué, j'ai nommé David Cameron.
L'homme le plus détesté du Royaume-Uni. L'édito 18h55, ce sera vous, Anthony Bélanger.
Et on va se demander si au Brésil, la justice n'est pas devenue la vraie opposition politique.
Et juste avant, nous irons en Afghanistan. En voici donc un avant-goût. Allez, c'est mon morceau de bravoure. Elle s'appelle Aria Saïd et ça s'appelle Yari Damiani. Et je vous jure que si vraiment vous voulez savoir qui c'est, je vous le remettrai sur Twitter. Allez, nous sommes...
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes donc au sud de l'Afghanistan, rejoindre Sonia Ghezali. Bonjour à vous.
Bonsoir Fabienne.
Vous revenez du Helmand, c'est une province du sud du pays. 80% du territoire est contrôlé par les talibans. 90% de ce que l'on y cultive, c'est de l'opium. Ce terrain gagné par les talibans, c'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de maintenir leur présence sur place. Là où vous nous emmenez, les marines sont revenues en avril dernier. On écoute votre reportage, Sonia, et on se retrouve juste après.
Kamagoul avance à petits pas, le terrain désertique et caillouteux.
L'antenne de son Tokiwoki sort d'une poche sur la manche gauche de son treillis militaire. Un détecteur de métaux à la main droite, il balaie de droite à gauche, tout en avançant.
Commandant, séparez les trois hommes. Un à gauche, un à droite, un au centre.
Ramagoul est en tête d'une file de 10 soldats munis d'un détecteur de métaux. Il est le plus expérimenté.
Je vérifie qu'il n'y a pas de mines antipersonnelles et d'engins explosifs improvisés enterrés sur cette route pour que le convoi passe en toute sécurité. C'est très important parce que lorsque les convois militaires et gouvernementaux passent, ils peuvent sauter sur des mines ou des IED.
Des mines et des engins explosifs improvisés sont bien enterrés ici, mais ils ne sont pas activés puisqu'il s'agit d'un exercice. L'un des soldats vient de détecter une mine dissimulée sous une motte de terre. Il donne le signal. Tous s'accroupissent, c'est la position de sécurité, le temps de baliser les lieux avant l'intervention d'un démineur. Ces soldats sont ceux que l'on envoie pour nettoyer les zones reprises aux mains des insurgés talibans. Le capitaine Duquesne appartient au corps de la marine américaine. Il supervise la session d'entraînement.
Les IED sont la première arme utilisée par les ennemis. C'est ce qui cause le plus de victimes dans les rangs de l'armée afghane et dans ceux des forces de sécurité de façon générale. Quand les routes ne sont pas nettoyées de ces engins explosifs, il n'y a plus de mobilité. Les renforts ne peuvent pas se rendre sur le front. Donc ces insurgés n'entament pas seulement nos capacités à combattre, mais aussi notre logistique. Donc ces opérations de nettoyage sont essentielles. Et puis ces IED n'ont pas de cible définie. Ils atteignent aussi bien les civils que les troupes de l'OTAN. Ce que font ces soldats en ce moment, ça n'aide pas seulement à lutter contre les talibans, mais cela aide aussi la population.
Les insurgés talibans contrôlent presque toute la totalité de la province du Helmand. Deux districts seulement sur 14 sont contrôlés par les forces gouvernementales. C'est ici, dans le sud de l'Afghanistan, que meurent le plus de soldats de l'ANA, l'armée nationale afghane, et de la police. S'exercer, se perfectionner dans tous les domaines pour être le plus efficace sur le terrain, c'est l'objectif de ces séances d'entraînement. Il faut apprendre à se battre, à détecter les pièges, mais aussi à secourir les blessés. Dans une autre partie de la base militaire, un hélicoptère vient de se poser sur un terrain vague. Des binômes d'agents médicaux s'entraînent aux évacuations de blessés. Les blessés sur le front sont transportés à l'hôpital militaire de la base Shorab. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est celui qui reçoit le plus de blessés dans tout l'Afghanistan. 1850 patients l'année dernière et 700 morts. Au cours des 8 derniers mois, 850 blessés ont été soignés par l'équipe médicale et c'est aussi ici que les corps sans vie de 665 soldats ont été apportés. Dans la salle de soins intensifs, deux hommes sous assistance respiratoire attendent d'être opérés. L'infirmier de garde vérifie les moniteurs.
Lui, il s'appelle Mohamed. Il a été dans le district de Sangin. Il a reçu une balle dans la bouche, juste là.
À Sangin, les combats font rage. Les talibans se sont emparés du district il y a 5 mois. Depuis l'arrivée des Marines, l'armée afghane est plus offensive, mais plus de soldats étrangers pour soutenir l'armée afghane changerait le rapport de force sur le terrain, selon le général Turner, à la tête des troupes de l'OTAN dans le Helmand.
Avec les troupes actuelles que nous avons ici, nous avons pu réaliser d'assez bons progrès. Avec plus de soldats étrangers pour conseiller, on pourrait les réaliser plus rapidement. C'est ce qu'on attend de la nouvelle stratégie qui a été annoncée. On espère que les forces supplémentaires nous permettront d'améliorer les compétences de nos partenaires afghans et d'accélérer nos progrès sur le terrain.
Il faudra attendre le mois de janvier pour savoir si parmi les soldats supplémentaires qui seront prochainement envoyés par les États-Unis, certains seront déployés ou non dans le Helmand.
Alors justement, Sonia, les progrès des forces afghanes dont parlait à l'instant le général Turner qu'on vient d'entendre, quels sont-ils? Ils avancent à quel rythme?
Eh bien, ils sont difficiles à quantifier parce qu'il n'y a que 2 districts sur 14 qui sont contrôlés par les autorités afghanes. Tous les autres districts sont aux mains des talibans. L'insurrection a toujours été importante dans le Helmand parce que les enjeux économiques y sont très importants. 90% de l'opium cultivé en Afghanistan provient de cette province du sud du pays. L'Afghanistan, qui est le premier producteur mondial de pavot, et c'est l'une des principales sources de financement des talibans qui prélèvent des taxes sur les paysans afghans qui le cultivent. Le colonel Reed, qui est est à la tête des 300 Marines déployés dans le Helmand, reconnaît que pour pouvoir vaincre les talibans dans le sud du pays, il faut aussi s'attaquer à ce trafic d'opium.
Et justement, alors que font les autorités afghanes dans la lutte antinarcotique ?
C'est un peu le cercle vicieux, car tant qu'il y a des combats, il est extrêmement difficile de lutter contre la culture de l'opium, puisque les zones sont inaccessibles. En Afghanistan, 80% des revenus proviennent de l'agriculture. Le Helmand est essentiellement rural, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant financièrement de faire pousser de l'opium que des légumes ou des céréales. Il y a eu des initiatives dans le nord-ouest de l'Afghanistan, par exemple pour remplacer la culture de l'opium par du safran. Certaines ont fonctionné, mais cela reste exceptionnel parce que la culture du safran demande beaucoup plus d'entretien et d'investissement que l'opium. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la corruption dans les cercles politiques et militaires est un véritable obstacle à la lutte antinarcotique.
Et alors Sonia, l'annonce justement faite par Donald Trump d'envoi de troupes supplémentaires, et surtout que les Américains vont rester en Afghanistan, comment ont réagi les marines américaines autour de vous ?
Ils en sont ravis. Le général Turner, comme le colonel Reed, estime que se retirer du Helmand a été une énorme erreur en 2014. À la question « Les efforts du passé ont-ils été vains étant donné la situation alarmante actuelle ?», ils répondent que leur présence dans le passé devait répondre à un objectif qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et c'est vrai, puisqu'ils ne participent pas au combat et qu'ils sont déployés comme tous les soldats étrangers en Afghanistan, sous la bannière de l'OTAN, pour former et conseiller l'armée afghane. Une armée qui remplit son rôle à 99%, disent-ils. C'est un peu plus compliqué dans les faits, puisque l'armée afghane pâtit énormément de la corruption. Des soldats ne reçoivent pas leur solde durant plusieurs mois, à savoir que le salaire moyen est de 180 euros. Et puis, il y a énormément de défections dans ces rangs.
Sonia Galzi avec nous en direct dans Un jour dans le monde. À très vite.
France Inter. Previously.
Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Pès.
Précédemment.
Previously.
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 Un jour dans le monde.
L'actu en série dans Un jour dans le monde. Tous les jeudis, on vous donne des nouvelles de quelqu'un dont vous avez lu, vu le nom pendant des mois, des années. Et puis, pouf, plus rien disparu de l'actualité. C'est le cas de votre personnage du jour. Bonjour Olivier Poujade.
Bonsoir Fabienne.
Alors même, Olivier, que les négociations patinent, celui qui ne voulait pas du Brexit mais qui l'a fait voter, voilà votre homme du jour.
David Cameron. Alors rassurez-vous Fabienne, David Cameron va plutôt
inquiète.
Bien. Ah bon, ben, ça tombe bien. Il fait du surf dans le Cornwall, les Cornouailles, et il a même accordé quelques mots journaliste du Harper's Bazaar, magazine de décoration qui s'est intéressé cet été à son cottage familial, une petite maison champêtre estimée à 1,5 million de livres, disons qu'il gère comme il peut son statut d'homme le plus détesté d'Angleterre, statut conquis de manière fracassante le 23 juin 2016, c'est la date du référendum britannique sur le Brexit. David Cameron, c'est l'homme du chaos, de la zizanie qui règne aujourd'hui en Grande-Bretagne, l'initiateur d'un projet calamiteux, un projet politique calamiteux auquel il a même associé la reine Elisabeth, puisque c'est elle, souvenez-vous, qui annonce la grande nouvelle au Parlement dès le mois de mai 2015.
Chers lords et membres de la Chambre des représentants, mon gouvernement s'apprête à renégocier les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Dans ce sens, une loi sera rapidement votée pour permettre l'organisation d'un référendum sur notre maintien au sein de l'Union européenne. Avant la fin de l'année 2017.
Pauvre reine Elisabeth qui ne s'imaginait certainement pas à ce moment précis mettre le gant dans ce diabolique engrenage.
Et donc une annonce à l'origine du plus grand séisme politique de l'histoire du pays.
Oui, puisque la classe politique britannique est aujourd'hui en lambeaux. Elle traverse une zone de forte turbulence que David Cameron a d'emblée décidé, lui, de ne pas traverser car il a choisi courageusement de démissionner dès l'annonce des résultats du référendum.
Je pense que le pays a besoin de nouveaux dirigeants. Je ferai de mon mieux en tant que Premier ministre pour tenir la barre dans les prochains mois. Mais je ne pense pas que ce soit bon pour moi d'être le capitaine qui conduira le pays vers sa prochaine destination.
Bref, après moi le déluge, je m'en lave les mains, c'est ce qu'on lit en sous-texte. Hein, Olivier.
Oui, absolument, alors qu'il avait quand même affirmé qu'il se maintiendrait à son poste quel que soit le résultat. Mais on peut dire cette fois que Cameron a eu du nez, il va même rapidement se retirer de la vie politique pour éviter d'être pointé du doigt à chaque prise de bec sur le Brexit. Il observe donc aujourd'hui à la jumelle son propre camp, les conservateurs, les Tories, s'entre-déchirer sur les modalités de sortie de l'Union européenne, sur les négociations avec Bruxelles et préfère se consacrer désormais à la présidence d'une fondation pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer, sans toutefois s'interdire quelques petites sorties, comme lors de cette conférence donnée en mars dernier. C'est sa dernière intervention où il semble presque assumer sa gigantesque bourde politique.
Je pensais que c'était une bonne chose d'organiser ce référendum, car c'est un thème qui empoisonnait notre vie politique depuis de nombreuses années. Et les gens devaient être consultés, c'est donc bien de le faire. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce résultat, mais ce fut un résultat décisif. Nous serons en dehors de l'Union européenne, mais nous continuerons de coopérer en matière de sécurité et sur d'autres thèmes. Nous ne quittons pas l'Europe, nous n'abandonnons pas les valeurs européennes.
David Cameron, il persiste, il signe et se permet aussi de donner quelques petits tuyaux à ses anciens compagnons conservateurs. Dans l'Evening Standard, il conseillait en juillet à son ancien parti de moderniser son image pour ne pas perdre les jeunes électeurs qui ne voulaient pas du Brexit et eux aussi quittent le navire et se tournent désormais vers le parti travailliste.
Et donc Cameron, ce sera la dernière question. Olivier profite aussi de son temps pour se détendre. Il a, paraît-il, été aperçu au festival de musique de Wilderness.
Et nous avons les preuves, Fabienne. Il y a une photo de lui qui circule sur les réseaux sociaux. Je vous la recommande chaudement. La cigarette dans une main, un verre de vin blanc on the rocks dans l'autre, l'œil un brun vitreux et en train de prendre dans ses bras une femme en perruque rose. Et c'est authentique, hein, vêtu d'un blouson I love Corbyn. Jeremy Corbyn, chef de l'opposition et leader du parti travailliste. Cameron a l'air de passer un très bon moment.
Allez, le résumé des épisodes précédents, c'était avec vous, Olivier Poujade. Merci.
I kinda miss my student loan. I've miss sitting in the student home, sharing stories now. I sim and sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake, living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way, like it's the great escape. Brothers do been better than me. I'm in a hurry, worry, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See, your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and your can't do sons. Up in the rubble, raising trouble, what you can't do is run. And trust, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see, got my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying I should have quit, but couldn't resist. And now they sit with an arc, a little luck and a wish. But trust, they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slips, stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they ask why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed.
À Montréal, il est 12h40, le coup de fil d'actu d'un jour dans le monde, 4 minutes et 4 questions pour donner un peu de sens à une actualité passée sous les radars. Si je vous emmène au Canada ce soir, c'est parce qu'à partir de maintenant, le 31 août, la mention genre neutre peut figurer sur les passeports. C'était une promesse, elle est donc tenue. X écrit noir sur blanc. Pascal Héricolas, j'ai d'abord une question pratique pour vous. Ça va se passer comment administrativement? Il faut refaire tous les papiers? On s'y met maintenant? Comment ça se passe?
Non, le gouvernement n'a pas encore donné de détails en fait sur la marche à suivre. Cependant, on peut imaginer qu'il va suffire de remplir une déclaration sur l'honneur pour se prévaloir d'une telle mesure. En effet, si la délivrance de passeport dépend bel et bien du gouvernement central canadien, les extraits d'actes de naissance dépendent, eux, des provinces et à l'exception de celui des territoires du Nord-Ouest, une région qui compte environ 40 000 habitants, tous les documents des gouvernements provinciaux mentionnent le sexe qu'avait l'enfant à la naissance. Mmh. Dans les territoires du Nord-Ouest, un citoyen âgé de plus de 19 ans peut demander à faire changer son sexe sur son acte de naissance, mais dans tous les cas, ces changements ou le fait de vouloir faire apposer un X plutôt qu'un sexe précis sur son passeport relèvent de la volonté de la personne. Pas question, par exemple, de faire intervenir un expert médical quelconque ou un psychologue dans ce processus.
Alors j'imagine qu'on a regardé, qu'on a réfléchi, ça s'adresse à qui ce genre de mesure ?
Eh bien, selon les groupes d'influence de la diversité sexuelle, quatre catégories de citoyens sont concernées. En premier lieu, les gens qui ne se sentent ni hommes ni femmes, ce qu'aux États-Unis, puis par extension au Canada et au Québec, on qualifie de personnes non binaires. Les Canadiens aussi qui possèdent des attributs sexuels qui ne sont pas définis clairement à la naissance. Avant, on les appelait des hermaphrodites. Donc, eux aussi peuvent avoir recours à ce fameux X, tout comme les transgenres, autrement dit des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans le sexe que la nature leur a attribué. Et pour ces personnes-là, se faire interpeller comme Madame Martin ou Monsieur Gagnon, s'ils se sentent dans la peau de l'autre sexe, peut contribuer à miner leur confiance en soi. Et c'est sans doute en pensant à l'important taux de suicide de cette communauté que le gouvernement fédéral a pris cette mesure administrative, qui s'adresse aussi en dernier lieu finalement aux parents qui ne veulent pas que leur enfant soit genré.
Alors on a bien compris que le geste évidemment était aussi symbolique pour les communautés, c'est important, mais on sait combien de personnes ça concerne ou pas ?
Non, c'est impossible à savoir. D'abord parce qu'aucun recensement au Canada ou ailleurs n'interroge les citoyens sur leurs sentiments par rapport à leur identité sexuelle, biologique ou de genre. Ensuite, parce que les catégories de personnes qui sont concernées par cette nouvelle dénomination administrative ne l'utiliseront pas forcément. Qui a envie d'arborer un beau X sur son passeport pour se rendre dans un pays comme l'Ouganda, la Jamaïque ou la Russie, dont on sait que les lois sexuels ne sont pas particulièrement agréables pour les homosexuels. L'OACI, qui est l'organisme international qui émet des directives sur la vérification des passeports dans les aéroports, a beau reconnaître des identités de voyageurs non liées au sexe, chaque pays, finalement, demeure souverain, ça à savoir sur les citoyens qui sont autorisés à entrer ou non sur leur territoire. Sans compter qu'il y a aussi le risque de se faire stigmatiser ou interroger par les autorités. Et c'est pour cette raison, finalement, que plusieurs organismes militent carrément pour l'abolition de la mention de sexe sur le passeport. De la même façon que vous vous souvenez que par le passé, les gouvernements ont supprimé la mention de race ou d'appartenance à une religion.
Et Pascal, Trudeau en fait beaucoup pour la communauté LGBT. Je vais vous poser la question comme ça. Est-ce qu'il y a des gens au Canada pour penser qu'il en fait trop ?
C'est vrai que le gouvernement libéral qui est en place depuis 2 ans a pris plusieurs mesures en faveur des minorités sexuelles. Justin Trudeau ne manque aucune fierté gay. Il est toujours tout sourire dans sa chemise rose pâle. Contrairement à son prédécesseur conservateur Stephen Harper qui se faisait un devoir, lui, de ne pas apparaître à ce genre d'événement. Plus sérieusement, la Charte des droits et libertés a été changée pour mieux protéger les gays, les lesbiennes, les transgenres contre la discrimination. À titre d'exemple, il y a un document maintenant qui donne des directives claires aux employeurs pour mieux intégrer les personnes transgenres en milieu de travail. Cette prise en compte des besoins des minorités sexuelles, elle correspond bien à la tradition du Parti libéral, qui est un parti très ouvert aux minorités en général, qu'il s'agisse des communautés venues d'autres pays aussi. Par contre, cela ne veut pas dire que 100% de la population canadienne endosse cette nouvelle façon de voir, parce que pour que ce genre de mesure ait vraiment un impact au quotidien, il faut aussi qu'elle soit expliquée. Et c'est peut-être là que le bât blesse. Les efforts en matière d'éducation à la réalité des diversités sexuelles ne suivent pas toujours la législation. À titre d'exemple, par exemple, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle au Québec depuis une quinzaine d'années, essentiellement parce qu'on ne s'entend pas sur le contenu qu'on devrait y trouver.
Pascal, une toute dernière question rapidement. On a un peu le sentiment vu d'ici que Trudeau, depuis Trump, est de plus en plus dans le miroir inversé des États-Unis. Plus l'Amérique se referme, y compris sur les valeurs, plus lui essaie de s'ouvrir. Est-ce qu'on se trompe ou pas ?
Oui, c'est effectivement le sentiment qu'éprouvent beaucoup de Canadiens et d'Américains depuis quelques mois. La situation était inverse, par contre, sous le gouvernement de Barack Obama, alors que Stephen Harper, très conservateur, ne cessait de durcir les lois au Canada. Mais c'est vrai qu'actuellement, le Canada a l'air d'un pays très cool, très ouvert, avec un premier ministre souriant, un premier ministre qui tweete qu'on peut venir au Canada très librement, mais qui parfois est obligé de corriger un petit peu la situation, surtout quand il y a 8000 réfugiés d'origine haïtienne qui frappent à la porte au Canada, comme ça s'est fait ces dernières semaines.
Pascal Guéricola en direct de Montréal avec nous. Merci beaucoup. Delphine Simon vient de s'installer pour Le Vrai du Faux de l'Europe et c'est tout de suite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le vrai du faux de l'Europe donc, avec vous, bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Et la question du jour, on parle emploi et réforme, c'est du très sérieux avec le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici.
tous les pays qui ont réformé leur marché du travail voient le chômage baisser. Pas toujours la qualité du travail augmenter, mais le chômage baisser. C'est le risque des réformes du marché du travail qui ne sont pas des réformes équilibrées.
Alors, réformer le marché du travail fait baisser le chômage, c'est ce que dit Pierre Moscovici, vrai ou faux ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis la crise, Fabienne, la plupart des pays d'Europe ont réformé leur marché du travail. Le Portugal, l'Irlande, les Pays-Bas, un mouvement engagé dès les années 2000 en Allemagne, l'homme malade de l'Europe à l'époque, avec les réformes du social-démocrate Gerhard Schröder. En Italie, le gros des réformes date de 2015 avec le Job Act de Matteo Renzi. Il offre aux entreprises plus de souplesse dans les contrats courts et des facilités pour licencier. Enfin, en Espagne, les réformes, elles datent de 2012 et elles offrent aux entreprises la possibilité de baisser les salaires ou de changer le temps de travail.
Alors, est-ce que ça fait vraiment baisser le chômage ? C'est ça la question.
Eh bien, partout en Europe, le chômage baisse. Et ça, c'est une réalité. Au Royaume-Uni, il a reculé de plus de 3 points en 6 ans. En Allemagne, le taux de chômage est passé sous les 4%, quasiment le plus bas d'Europe. En Italie, comme en Espagne, le chômage reste très élevé. Mais depuis les réformes engagées, c'est vrai que la courbe s'est inversée. 9 points de moins en Espagne depuis les réformes de Mariano Rajoy. Une baisse massive, sauf qu'avec un taux de 17%, l'Espagne reste le deuxième pays d'Europe le plus touché.
Et est-ce qu'on peut vraiment lier la baisse du chômage à ces réformes ?
Là, c'est carrément hasardeux, Fabienne. D'abord, parce que la croissance est repartie pour tout le monde. 3% cette année en Espagne. Et du coup, les créations d'emplois, elles s'expliquent plutôt par un rattrapage de l'économie. Il y a aussi le cas de l'Italie, où les embauches sont surtout dues à des incitations fiscales. Pas de miracle, donc, lié à ces réformes. Enfin, il y a un facteur démographique. En Allemagne, où le taux de fécondité est très bas, le marché du travail absorbe plus facilement les jeunes qui arrivent. Pour les économistes, il est donc très difficile de relier performance du marché du travail et chômage. Difficile d'être aussi affirmatif que l'est Pierre Moscovici. Si je résume, c'est donc ni vrai ni faux, une vraie réponse de Normand.
Voilà, ça c'est trop facile et vous n'avez pas le droit, Delphine. Une dernière chose quand même, Pierre Moscovici dit que la qualité du travail n'augmente pas.
Eh bien ça c'est vrai que dans la plupart de ces pays où le chômage baisse, on va vers plus de précarité. En Italie, le chômage des jeunes ne baisse pas. En Allemagne, 9 millions de personnes ont des mini-jobs payés 450 euros par mois. Aux Pays-Bas, les temps partiels explosent. Enfin, au Royaume-Uni, les contrats à zéro heure se portent bien. Alors, il y a quand même des exceptions, Fabienne. Tout n'est pas à... Il ne faut pas désespérer. Les pays scandinaves ont réussi à faire des réformes sans augmenter le niveau de pauvreté, rappellent certains économistes de l'OFCE. Mais ça, c'est aussi grâce à un niveau très élevé de cotisations sociales et de prélèvements obligatoires. Autrement dit, pas de secret, la protection des travailleurs a un prix.
Delphine Simon, l'Europe du vrai du faux, c'est tous les jeudis dans Un jour dans le monde. 18h55, Anthony Bélanger et son édito. Bonjour Anthony.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et ce soir, direction le Brésil, où la justice a suspendu une des décisions les plus controversées du président Temer.
C'était le 24 août dernier. Le président Michel Temer a totalement décontenancé en signant un décret incroyable d'un trait de plume. Il rendait exploitable par des compagnies minières la réserve de Renca. Alors pour vous donner une idée de l'importance de cette décision, la réserve de Renca, ça se trouve au nord du pays, non loin de la Guyane française. C'est surtout grand comme le Danemark et sa couverture forestière est intouchée. Presque intouché depuis près d'un demi-siècle. Tous les défenseurs de l'environnement ont hurlé, expliquant que même la dictature n'avait pas osé aller aussi loin. Et c'est un juge fédéral, donc, saisi pour l'occasion, qui a suspendu hier toute éventuelle mesure administrative fondée sur le décret. C'est comme ça que c'est dit. Le gouvernement a aussitôt fait appel de cette décision qui reste tout de même suspensive.
Alors, c'est devenu une habitude, au Brésil, ce bras de fer entre la justice et le gouvernement.
Et oui, c'est vrai, la justice brésilienne a pris l'habitude de contrecarrer les décisions les plus controversées de l'actuel gouvernement. On pourrait même presque dire qu'au Brésil, la justice est devenue la véritable opposition politique pour une raison pratique. D'abord, le principal parti d'opposition, le Parti des Travailleurs de Lula, est lui-même empêtré dans les procès. L'ancien président Lula, par exemple, est accusé de corruption. Il vient d'être condamné à 10 ans de prison. Alors, il a fait appel, mais ce n'est même pas le seul dirigeant du PT à avoir été ainsi inculpé, voire déjà condamné. Autrement dit, le principal parti d'opposition est empêché. Et entre les décisions intempestives comme celle-là, qui servent clairement les intérêts de l'industrie minière brésilienne, et les arbres d'Amazonie, eh bien, il ne reste plus que la justice.
La justice qui est aussi partie en guerre contre la corruption des élites politique.
A commencer par l'actuel président Michel Temer, qui a réussi tout de même à coup de manœuvres politiciennes à échapper à un procès de corruption. Son parti, le PMDB, est de toutes les coalitions gouvernementales depuis 1985, c'est-à-dire depuis le retour de la démocratie, un parti qui s'est donc rendu indispensable et qui monnaie depuis toujours son appui. En clair, le PMDB, c'est le parti le plus corrompu d'un système politique déjà très corrompu, comme l'ont montré 4 années d'enquête acharnée. Alors comment s'est organisée cette croisade judiciaire ? Eh bien c'est simple, un petit nombre de juges ont étudier l'opération, c'est main propre dans l'Italie des années 90 et a retenu trois principes. Un, la prison préventive, ça c'est très efficace sur les cols blancs. Deux, soigner les repentis, leur proposer des deals en échange de dénonciations. Et puis trois, impliquer la presse. Ces principes ont fait jusqu'à présent merveille. 157 condamnations dans le milieu politique et patronal, 12 milliards de dollars pistés et en partie récupérés et des centaines de mises en examen à venir. Une hécatombe.
Merci beaucoup l'édito d'Anthony Bélanger. Le 18-20 continue avec le téléphone sonne. Ça y est donc, les ordonnances sont là, comme prévu, qui se partagent en 36 mesures. On y revient évidemment tout de suite dans le journal, mais venez vous dire ce que vous en pensez, vous. Venez poser vos questions à nos invités. Questions sur les indemnités, sur les négociations, sur les plans sociaux, sur ce que vous voulez. 01 45 24 7000, franceinter.fr. Le mot dièse aussi, c'est Telson. Allez, vous l'avez entendu, il est 19h et c'est le journal.